Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, je suis vraiment ravie de vous retrouver avec un épisode un peu spécial parce que je vous présente un nouveau concept pour la première fois. L'épisode de Mamaki, Sous le ciel, est sorti il y a 2 semaines au moment où vous allez écouter cet épisode et ça ressemble beaucoup à l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai rajouté quelques petits segments, quelques petits concepts. Alors je vous explique d'où cette idée m'est venue. En fait, il y a quelques temps avec Mamaki, on parlait de sa méthode d'écriture, de comment son cerveau fonctionne, de qu'est-ce qu'elle aime dans l'écriture premier jet versus réécriture et pourquoi elle n'arrivait pas à planifier ses romans. J'avais un peu envie d'essayer de la comprendre parce que mon cerveau fonctionne vraiment pas comme ça et que je suis vraiment architecte extrême. Et donc, je lui posais plein de questions et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de partager cette discussion-là sur le podcast. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai reçu quand même des retours positifs, alors j'étais contente. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas étendre le concept? Pourquoi ne pas inviter d'autres auteurs à venir me parler de leur méthode? Parce que c'est pas le sujet le plus important pour moi en écriture, c'est vraiment dans le top 3, je pense. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point différents auteurs peuvent avoir des méthodes diamétralement opposées. Et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur les méthodes des auteurs que je suis sur Instagram et tout. Alors, voilà. J'ai pondu comme un premier jet de questions, puis j'ai peaufiné le concept, j'ai pensé à des petits segments spéciaux que j'ai vraiment hâte que vous écoutiez, et j'ai invité Marie pour venir me parler de sa méthode parce que je savais qu'elle avait écrit beaucoup, beaucoup de romans et je voulais savoir si ça avait évolué avec le temps, comment elle voyait ça, etc. Et l'épisode est vraiment super intéressant. On a parlé d'idées de scènes qui fusent dans sa tête, qui la laissent pas tranquille, de sa tendance à se laisser happer par le premier jet, de son rapport aux réseaux sociaux, de la peur des opinions des autres. Et bien entendu, on parle de sa méthode en long et en large, de la planification à la réécriture. J'espère vraiment que vous allez aimer l'épisode autant que moi, mais vraiment, n'hésitez pas à venir me dire votre avis, que ce soit positif ou négatif. J'aime mieux savoir ce que vous en pensez pour pouvoir vous offrir du contenu qui vous intéresse. Ces derniers temps, en fait, les dernières semaines, j'ai très peu de retours, donc je suis pas certaine si mon contenu vous intéresse ou non, si ça vous plaît, si vous aimeriez mieux que je fasse autre chose. Vraiment, n'hésitez pas parce que même si je fais le podcast pour moi, ben je le fais aussi pour vous, pour vous aider le plus possible en écriture. Et ça me ferait plaisir de vous offrir du contenu qui vous fait plaisir aussi. Pour l'instant, je continue ce concept. Quelques épisodes, je pense, pour tester, voir ce qui me plaît ou non. Puis, on verra après. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça me passionne. J'ai vraiment adoré l'enregistrement avec Marie et aussi celui avec Mamaki. Sinon, petit disclaimer pour cet épisode en particulier. Marie habite à Paris, donc il y a beaucoup de bruits parasites derrière elle, près de son domicile. On entend parfois de la circulation, mais ça devient moins pire au fur et à mesure de l'épisode. Donc même s'il y a quelques petits moments qui vous dérangent, n'hésitez pas à continuer parce que vraiment ça devient moins pire après. Puis j'ai fait vraiment de mon mieux pour en couper le plus possible. Je pense que c'est pas si pire que ça. Et surtout, c'est pas tout le long de l'enregistrement. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. L'intro est plus longue que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous introduire au concept méthode d'écriture. Ah, et petite note, comme d'habitude, les liens de l'invité vont être dans les notes de l'épisode. Je vous laisse sans plus tarder avec l'écoute du podcast. Coucou Marie, je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour inaugurer un nouveau type d'épisode sur le podcast. Premièrement, je voudrais savoir comment tu vas.
Hello! Ça va, merci de m'avoir invitée et ouais, je suis contente de pouvoir parler de tout ça avec toi.
Moi aussi, très contente de pouvoir en entendre plus sur ta méthode et tout. On va commencer par une question qui fait peur un peu à tout le monde, je pense. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter?
La fameuse. Du coup, moi, je suis Marie ou Mimioun sur Instagram. Je suis étudiante sur Paris en cinquième année de master, donc j'ai bientôt terminé. Et en parallèle de ça, j'écris depuis, du coup, ça va faire 6 ans que j'ai posé le point final sur un premier jet. Et depuis, bah, j'en ai pas mal enchaîné. J'en ai terminé, si je dis pas bêtise, 18, 17. Non.
Impressionnant quand même.
C'est quelque chose comme ça. Et voilà, donc l'écriture, c'est un peu ma deuxième vie, j'ai envie de dire. Ça m'accompagne tout le temps, partout depuis, bah, depuis 6 ans, vraiment 6 ans sûr.
Ok, parfait. Est-ce que tu aurais envie peut-être de nous pitcher un projet, peut-être celui sur lequel tu es en ce moment, ou de nous dresser un portrait général de ce que tu fais d'habitude?
Bah, du coup, moi, j'ai majoritairement écrit de la fantasy. Et mon plus gros projet récemment, c'est une saga de fantasy médiévale, plutôt adulte, new adulte à la limite si on veut, mais plutôt dans cette catégorie-là. Et donc voilà, c'est une saga de 4 tomes ça m'a occupée pendant une année entière. Et donc là, les 4 tomes sont rédigés et j'ai terminé la réécriture du premier tome, donc il est passé en bêta-lecture, tout ça. Et l'idée serait d'éventuellement passer, comme si ça marchait comme ça, de tendre vers l'édition potentiellement, voilà.
Ok, t'as écrit les 4 tomes cette année?
J'ai écrit les 4 tomes de octobre 2021 à septembre 2022.
Waouh, ok. Ouais. C'est impressionnant. c'était quoi ton parcours avec l'écriture? Là, tu nous as dit que tu as commencé il y a 6 ans. Est-ce que plus jeune, t'inventais des histoires, quelque chose dans le genre?
Ouais, en fait, raconter des histoires, ça a toujours été une passion. Et même tout ce qui racontait des histoires, en fait, j'aimais trop ça. Je sais que petite, il y a un moment où je voulais être réalisatrice de films. Parce que, comme si ça marchait comme ça et j'allais pouvoir faire des films. En fait, je voulais juste raconter plein d'histoires et tout. Et je me souviens que je faisais des livres en pliant des feuilles de papier. Souvent, c'était du dessin plus que des écrits au début. Et j'ai commencé à taper vraiment dans l'écriture. Quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, donc j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Donc je découvrais les fichiers Word, j'ai découvert qu'en fait les dialogues c'était des tirés cadratins et pas juste des puces, des trucs comme ça. Mais c'était pas hyper sérieux. J'avais un gros projet de fantasy avec une élue évidemment, une sorcière, de la magie, tout ça. On a tous un petit projet un peu comme ça. Mais je l'ai jamais. J'ai jamais vraiment pris ça de manière très cadrée et tout. J'ai laissé un peu dans le flou et je m'y remettais une fois tous les 2 mois quand j'avais envie. Et puis au bout d'un moment, j'ai laissé. Et puis en fait, en 2017, du coup, j'étais dans un moment pas hyper bien. Et l'écriture, ça a été un peu ma bouée de sauvetage. J'avais besoin de juste... il me fallait un truc pour sortir de ma tête, j'ai envie de dire un peu grossièrement. L'écriture, je me suis vraiment plongée dedans et pendant un mois, j'ai fait que ça toutes mes journées. Et puis depuis, j'ai plus jamais lâché. Donc j'ai enchaîné tout comme ça sur mes études. Enfin, en parallèle de mes études, j'ai enchaîné les projets d'écriture.
Ok. Petite question improvisée. Est-ce que c'était comme un déclic qui t'a donné envie d'écrire?
En fait, je saurais plus vraiment dire exactement à quel moment je me dis « là, il faut que j'écrive ». Mais c'est juste que j'étais vraiment dans un moment où j'allais rester toute seule pendant un mois chez moi. Et en fait, être juste en face à face avec moi-même à ce moment-là, c'était pas une bonne chose. Et du coup, ouais, il y a eu ce truc de « ok, j'ai une idée d'histoire et puis j'ai les moyens d'écrire ». Dire ça coûte rien du tout d'écrire. C'est hyper accessible, je peux faire ça chez moi et quand je veux, alors que je veux. Enfin, il n'y avait pas de contraintes. Et du coup, je me suis vraiment plongée dedans. Et oui, du coup, j'imagine que ça m'a fait un déclic d'écrire et surtout d'être parvenue au bout de ce projet-là. Non seulement à ce moment-là, j'étais pas bien, donc me dire que j'arrivais au bout du projet, c'est hyper... ça amène une fierté, en fait, que j'avais plus à ce moment-là, donc ça m'a fait trop du bien. Et ensuite, ouais, il y a ce truc où tu dis « Ok, j'ai réussi à écrire un premier jet, c'est possible d'écrire un premier jet, je l'avais jamais fait avant. » on y arrive et ça m'a fait trop du bien aussi. Donc,
ouais, ben même si toute l'histoire de réécriture après, on dirait que terminer un premier jet, ça donne confiance. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Puis, parce que je pense que ça peut influencer les réponses des questions suivantes, je voulais te demander, c'est quoi tes aspirations avec l'écriture? Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire avec ça? Là, tu en as parlé un petit peu au début.
Bah, en fait, à la base, j'ai pas commencé forcément à écrire parce que je voulais être éditée ou quoi, ou même en faire mon métier en auto-édition ou quoi. Enfin, voilà, j'ai vraiment écrit parce que des histoires. J'ai plein d'histoires dans la tête, j'ai besoin de les évacuer de ma tête aujourd'hui, sinon elles me... Comment dire, elles me paralysent. Enfin, je sais pas si c'est vraiment paralyser le mot, mais si j'écris pas ces histoires-là, elles monopolisent grosse partie de mon cerveau et au bout d'un moment ça marche plus. donc à la base il y a vraiment ce truc juste de raconter des histoires, écrire des histoires, faire vivre quelque chose qui vit à la base dans ma tête et le formuler en mots. Mais c'est vrai que aujourd'hui j'écris pas mal de premiers jets et il y a ce truc où t'as envie de découvrir autre chose aussi. Alors non pas que j'ai plus envie d'écrire des premiers jets parce que au contraire j'aime trop ça. Mais, et puis j'ai toujours des nouvelles histoires, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a aussi ce truc où j'ai envie d'aller plus loin, et du coup, l'édition. En fait, je me sens pas capable d'assumer l'auto-édition. J'ai rien contre l'auto-édition, et je trouve ça génial, mais je me sens pas capable de l'assumer aujourd'hui, que ce soit par des moyens financiers ou par des moyens humains, enfin, ma propre capacité à moi d'organisation, de marketing, tout ça. Voilà, aujourd'hui, je sens pas que j'ai les épaules, peut-être un jour. Mais du coup, l'édition classique me parle plus. Et du coup, c'est ce que j'aimerais atteindre en ce moment, en tout cas. Après, je sais que... Enfin, je sais, ça dépend, mais je pousse pas complètement tous mes efforts, j'ai envie de dire. Mais j'ai d'autres choses à faire aussi, donc ça s'explique. Mais en tout cas, voilà, l'édition, aujourd'hui, c'est ce qui m'appelle. Et puis après, continuer à écrire des histoires, continuer, enfin, ça, j'arrêterai jamais, je pense, c'est déterminé pour ça, quoi.
Ouais, ben, je comprends, je me dirige pas vers l'auto-édition pour l'instant pour les mêmes raisons, parce que c'est énormément de casquettes à assumer, beaucoup de travail aussi. Donc, ouais. Maintenant qu'on apprend un petit peu à te connaître, on va comme basculer un peu plus vers le volet méthode. Mais je voulais commencer par te demander, est-ce que tu t'inspires beaucoup de ce que tu lis?
Alors, beaucoup, je dirais que non. Mais après, je pense que j'ai des inspirations, et pas que forcément de ce que je lis, en fait. Encore une fois, tout ce qui va raconter une histoire. Donc ça peut être film, ça peut être série, ça peut être... en ce moment, je suis très à fond dans les animés et les mangas. Mais quand j'étais petite, c'était les films, les dessins animés, tout ça, enfin... Je me nourris énormément de ce que je consomme, et je consomme aussi énormément parce que j'en ai besoin. Ça me fait beaucoup de bien. Et ouais, je pense que je peux pas nier que les inspirations existent, qu'elles sont là. Après, ça fait pas mes histoires, mais je m'inspire. Je pense que ça pioche de droite à gauche, et puis ça construit quelque chose aussi de nouveau. Après, chacun son originalité personnelle aussi, et ses vécus qui font que aussi on écrit des histoires différentes. Mais je pense que... Puis j'ai pas de problème à dire qu'il y a des inspi qui viennent de droite à gauche. Ouais.
Ok, puis est-ce que t'as l'habitude de te mettre un peu la pression pendant ton processus d'écriture, ou t'es capable d'oublier toute pression extérieure, tout avis que tu pourrais avoir plus tard, ce genre de choses?
Avis d'un potentiel lectorat, tu veux dire?
Ouais, ou exemple, puisque tu te diriges vers l'édition, d'avoir peur de ne pas réussir, est-ce que, par exemple, tu as la peur de l'échec qui rentre, ou vraiment t'es focus?
Alors, pendant l'écriture du premier G, c'est vraiment moi et mon histoire. Donc, pour le coup, je pense que c'est aussi une chance, parce que pour le coup, entre guillemets, les mauvaises pensées, si je fais ça comme ça, ne viennent pas. C'est plus au moment de la réécriture et dans les moments où j'écris pas, justement, où ces idées un peu parasites, elles viennent en mode mais imagine, ça passera jamais, ça sera jamais admis par des gens, non mais ce que t'as dit là, c'est n'importe quoi, enfin des trucs un peu comme ça. Ça me vient plus soit dans les moments où j'écris pas, et du coup je réfléchis à ce que je vais faire de mes projets, soit plus tard à la réécriture. ou notamment quand j'ai beaucoup hésité à faire appel à des bêta-lectrices aussi, parce que pareil, ce truc de les gens vont découvrir une histoire et si ça plaît pas, comment je vais réagir. En fait, tant que c'est moi et moi avec l'histoire, ça va, mais dès qu'on essaye d'avancer sur des steps suivantes, c'est un peu plus compliqué. Mais au moment du premier jet, en tout cas, non, ça va.
Ok, donc c'est à partir du moment où vraiment comme tu t'approches plus de la ligne d'arrivée, on va dire, de fin de projet.
C'est le moment où le regard des autres va potentiellement entrer en ligne de mire.
Ouais, ok.
Tant qu'il est jamais présent et qu'il n'y a aucune chance qu'il soit là, bon bah ok, c'est cool, j'y pense. Enfin, j'y pense pas. J'essaye, j'y pense plus. Et puis c'est bon, on avance. Mm-hmm. Mais après, un projet, il est obligé d'avancer aussi. Enfin, la bêta-lecture, par exemple, c'est pas publier son roman, mais c'est quand même confronter son livre à un premier regard. Il y a des gens qui publient des textes sur Wattpad, des trucs comme ça. Pareil, c'est confronté à un premier regard. Là, tout de suite, il y a une réticence qui arrive.
C'est
plus compliqué.
Ouais, mais ça fait peur un peu.
Ouais.
À part ça, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que ça t'arrive de faire des brainstorming avec d'autres auteurs ou même d'écrire avec d'autres auteurs en séance commune?
Alors, majoritairement, je suis en solo et j'ai été en solo pendant, du coup, ça fait 6 ans que j'écris, je pense pendant 4-5 ans, j'étais quasiment que en solo. J'ai commencé à écrire avec d'autres personnes quand j'ai commencé à m'investir davantage sur Instagram, parce que c'est là que j'ai rencontré des gens qui écrivaient aussi, en fait. Dans mon quotidien de tous les jours, du coup maintenant ça a évolué, mais à la base, quand j'ai commencé mes études, tout ça, il n'y avait personne qui écrivait autour de moi, et du coup, j'en parlais pas ou très très peu. C'est-à-dire que j'ai jamais caché que j'écrivais, de toute façon c'était pas possible que je le cache, on me voyait en cours taper sur mon document, c'était pas possible, mais j'ai jamais parlé de mes histoires ou quoi, c'est toujours resté très, presque très intime, j'ai envie de dire. Et puis c'est quand j'ai commencé à m'investir sur Instagram et là j'ai rencontré des personnes qui écrivaient aussi et du coup j'ai commencé à faire quelques sessions communes, tout ça, mais je reste globalement une solitaire en écriture et mais j'aime bien de temps en temps une session d'écriture avec des gens, voilà, soit on se retrouve en vrai, soit on fait ça en visio, ça, les deux ça va, et parler, même parler de projets par message et tout ça, ça aussi c'est super cool.
Tu parlais de des gens qui savaient que t'écrivais, est-ce qu'ils savaient que t'écrivais des romans? Est-ce qu'ils se posaient pas des questions?
Alors ouais, ils savaient que j'écrivais des romans, parce que ça, pareil, je l'ai pas caché. J'écris des bouquins, quoi, je disais ça comme ça. Mais je développais jamais les thèmes, ou j'étais toujours... C'est la question, t'écris, c'est quoi ton histoire? Tu peux nous raconter ton histoire ou quoi? Et bah, cette question-là, ouais, t'inquiète, je te dirai un autre jour. Ouais, ça, j'ai toujours été plus réservée sur ce que j'écrivais et j'ai toujours eu du mal à. En fait, c'est difficile quand c'est des personnes qui, tu sais, qu'elles ne lisent pas ou qu'elles n'écrivent pas non plus. Tu te dis pourquoi leur raconter aussi, parce que de toute façon, elles ne liront pas ou ça ne les intéresse pas. Ou enfin, en tout cas, c'est des idées qu'on a, j'imagine, surtout parce que. Enfin, si demain j'amène mon livre à mes parents, par exemple, je sais qu'ils le liront parce que c'est moi et qu'ils auront envie de savoir ce que j'ai écrit. Donc, je sais que c'est des fausses pensées, on va dire. Mais il y a ce truc où, ouais, t'as pas envie d'imposer ce que tu fais aux gens aussi. Une réserve sur ce que t'écris, une peur du jugement aussi qui est un peu inévitable. Je sais que moi, j'ai plus peur d'être lue par des gens qui me connaissent que par des gens qui me connaissent pas.
Pareil.
Ça va changer une façon qu'ils ont de me voir, c'est pas possible du coup. Les inconnus, ouais. Ok, mais les proches, non. C'est encore un peu un travail, on va dire.
Ok. Puis à ce moment-là, t'avais personne dans ton entourage qui écrivait comme toi?
Non.
Non? C'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est très rare à avoir connu quelqu'un qui écrivait comme jeune, alors que quand on est sur Instagram, on a l'impression qu'on est, ben en fait, on est des centaines. Donc,
ouais,
comment ça d'accord. Se fait qu'on se connaît pas? En tout cas,
je sais pas.
C'est spécial.
Est-ce que c'est parce qu'on se cache un peu tous aussi? Enfin, je sais que
peut-être.
Moi, j'ai jamais caché que j'ai connu, tu vois, mais il y a plein de gens qui ne le disent pas et
ouais.
Qui ne le montrent pas, qui font ça dans leur coin. Et enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut et dans ses propres limites. Mais du coup, c'est vrai que peut-être il y a ça aussi où on garde ça pour nous, on n'en parle pas trop, et du coup, ça se diffuse peut-être pas.
Ouais, ça se peut.
Et après, bon, bah, l'écriture, ça reste quand même quelque chose un peu niche comme activité. Donc, j'imagine qu'on est, beaucoup en globalité, mais dans les cercles plus restreints, finalement, on est moins. Moi, je sais que dans mes amis, personne écrivait. Pour le coup, c'est pas qu'ils se cachaient ou quoi, c'est vraiment personne écrivait à part moi.
Ouais, pareil. Et même la lecture, c'était pas une majorité de gens.
Ouais. Un peu plus, mais c'est vrai que ça reste restreint.
Mm-hmm. Maintenant, on peut passer à la partie vraiment planification.
Allez.
Est-ce que tu planifies tes romans? Est-ce que tu en as déjà planifié? Est-ce que ta méthode a évolué avec le temps?
Ouais, alors bah du coup, si on remonte au tout premier G, le tout premier G, ça a été du one-shot. Voilà, j'écrivais jour sur jour et il n'y avait rien de préparé. C'était vraiment, ça coulait, il fallait que ça sorte. Et en vrai, après, il y a eu plein de corrections à faire sur ce projet-là. Mais pour le coup, il n'y avait rien de préparé parce que avant de commencer, j'étais même pas dans une optique de me dire « je vais écrire ». C'est vraiment venu comme ça et du jour au lendemain, je dis « ok, bon bah, on se lance ». Donc là, non. Mais après, au fur et à mesure du temps, déjà, ce tome-là était un premier jet, donc il a fallu que je réfléchisse... Un premier tome. Donc il a fallu que je réfléchisse au suivant. Donc ça oblige un peu à une réflexion. Je suis jamais allée dans la planification vraiment chapitre par chapitre, scène par scène, enfin vraiment très précise, très cadrée. Mais au fur et à mesure des projets, j'ai commencé à être un peu plus structurée dans ma façon de me lancer dans les projets. Je me lançais plus comme je me suis lancée sur celui-ci, en mode vraiment advienne que pourra, et on verra ce que demain nous réserve. Ça n'arrive plus. Aujourd'hui, souvent ce qui se passe, c'est que je travaille un peu en deux temps mes projets. Il y a le premier temps qui est la phase d'idéation, où là, je laisse vraiment toutes les idées arriver et je remplis des fichiers de notes. Mais des fois, j'ai des scènes entières qui sont rédigées à l'avance et je les organise, ces scènes-là. C'est-à-dire que dans le fichier de notes, j'essaye de les placer. Alors, pas toutes, il y a des fois où il y a des petites surprises, on ne sait pas trop, voilà. Mais en général, j'essaie de les organiser un peu dans ma tête comment j'imagine que l'histoire va se dérouler et du coup, j'ai des balises, en fait. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est celle du premier G. Bon, en fait, là, j'ai mon fichier vierge, j'ai mon premier chapitre, et puis je place les scènes que j'ai eues au fur et à mesure de comment l'histoire avance. Donc, j'ai pas un découpage qui est prévu en amont, parce que ce travail-là, je suis pas capable de le faire. J'arrive pas à visualiser que tel truc va se finir là et tel chapitre va commencer là. Ça, je suis pas capable. Par contre, j'ai quand même une idée globale de ma trame, avec des bullet points, on va dire, et il faut faire le lien entre chaque scène qui existe. C'est un peu un puzzle, on va dire. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Donc, pas du plan-plan, vraiment très cadré, tout ça. Mais j'ai quand même une idée de là où je vais.
Ok, donc t'es comme paysagiste, on pourrait dire. Est-ce que tu te considères comme ça ou pas trop?
Ouais, en vrai, s'il faut se placer, je pense que je suis plutôt entre les deux, ouais. Mais j'ai quand même une tendance plutôt au jardinage, on va dire.
Ok.
Voilà. S'il faut vraiment que je me place d'un des deux côtés, je pense que je serai quand même côté jardinier. Mais c'est vrai que... En fait, je trouve qu'il y a du bon dans les deux et du coup, je me limite pas. J'ai pas du tout envie de me fermer à l'idée d'aller piocher des deux côtés.
Ouais, mais je trouve que c'est une belle vision des choses. Tu disais que t'as un fichier de notes. Est-ce que c'est sur ordinateur? Est-ce que c'est un carnet?
Donc, j'ai un fichier de notes sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, en fait, les deux sont reliés. Donc, dès que j'écris une note sur mon téléphone, elle est aussi automatiquement sur mon ordi, ce qui est ultra pratique. Et donc, là, vraiment, dès que j'ai une scène ultra précise qui me vient en tête, je la rédige dans mes notes, dans le fichier du projet correspondant. Et par contre, j'ai un carnet aussi, mais c'est plus... Comment dire ? Le carnet, c'est plus pour tout ce qui est technique et information. Donc, par exemple, si j'ai besoin de faire une frise chronologique, carnet. Si j'ai besoin de noter des informations sur un personnage, carnet. Préparation du world building, le carnet aussi. Voilà, tout ce qui est plutôt de l'ordre créatif pur et dur, on va dire, et tout ce qui est piocher des éléments, et puis se souvenir de certains éléments aussi, là, c'est mon carnet. Mais sinon, pour les notes, vraiment les notes pures et dures, c'est le fichier notes natif sur Apple, en fait. Enfin, ça aurait pu être un Google Doc, enfin, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais en tout cas, c'est voilà, ce fichier notes est du coup déjà écrit. Parce qu'en fait, moi, mes notes, c'est pas des petites notes, c'est des grosses notes. Des fois, c'est des gros pavés de texte tout près, ou des gros moments de dialogue tout près. Et du coup, il y a un moment où je sais que sur un premier projet, je faisais pas encore les notes sur mon téléphone, et je l'avais fait sur le carnet. Et en fait, recopier tous tes pavés de notes que t'as écrit à la main, c'est très chiant. Du coup, je suis passée à la technologie.
Je comprends.
Voilà. Du coup, je divise les deux.
Ok, donc c'est l'application Notes sur ton téléphone, puis t'as comme un Mac,
j'imagine. Ouais, c'est ça. J'ai l'iPhone et j'ai le Mac. Et du coup, j'ai mon fichier de notes qui est relié aux deux, et j'ai mon fichier d'écriture qui est relié aux deux aussi.
Ok, cool. Puis t'écris sur Pages?
Sur Pages, c'est ça.
Ok, super. Cool. Puis, tu parlais que des fois, tu écris des gros blocs de scènes de narration. Ça te vient souvent, c'est des dialogues, ouais. Des scènes? Ah ouais? Mmh.
Parce que ouais, moi, très, non. Très souvent.
Okay. Ça m'intrigue.
Ouais, très, très souvent. Non, mais je comprends. Des fois, j'ai vraiment dans ma tête, c'est comme si je voyais la scène vraiment sous mes yeux et j'entends les personnages qui échangent. Et du coup, j'ai vraiment leur scène de dialogue qui se passe. Et souvent, ça commence par du dialogue. C'est vrai que ça commence souvent par du dialogue. Et du coup, au moment où je le note, j'ai les éléments visuels qui me viennent aussi. Et du coup, je vais écrire les descriptions. Des fois, les descriptions, elles sont entrecoupées de slash. Des fois, c'est en mode, bon, là, il fait un truc un peu comme ça, mais tu retravailleras. Je laisse ça à ton moi du futur, tu verras. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment des scènes, des fois, vraiment très, très détaillées. Et... J'ai très rarement des notes de l'ordre c'est l'histoire d'un personnage qui fait ça, et il a ça, et il a ça, et il lui arrive ça, ça, et ça. C'est très très rare que j'ai des notes comme ça. Souvent, même les toutes premières notes du projet sont une scène. Ou un dialogue. Oh ouais. Et ça commence comme ça. Et en fait, tout part, en général, un peu d'une rencontre avec un personnage ou des personnages qui vivent quelque chose. Ça m'intrigue. Je veux comprendre votre histoire, en fait, racontez-moi votre histoire. Et ensuite, j'ai toutes ces petites scènes que je laisse arriver et qui arrivent au fur et à mesure. Des fois, elles n'arrivent pas et du coup, le projet attend. Mais des fois, il y en a plein où ça arrive et ça arrive. Bah, notamment ma saga, j'ai un souvenir de moi. J'étais à Rome avec mes parents et les idées arrivaient en boucle, en boucle, en boucle. Et ma mère me dit « Mais arrête avec ton téléphone, regarde, on est au musée et tout, profite !» Et en fait, je ne peux pas profiter du musée si je n'écris pas mes notes, parce que c'était trop parasite dans ma tête. Et des fois, j'ai des scènes préécrites, voilà, je te dis, des fois de 200 mots, des fois même bah, pour cette saga-là, j'avais des scènes déjà de 1000 mots décrites. Et du coup, quand t'arrives à ton chapitre et que tu mets déjà 1000 mots dedans, t'es en mode bon, bah c'est bon, on est bien.
Ouais, c'est cool.
Voilà. Donc, c'est presque du brouillon. Il y a des gens qui font leur premier jet comme ça en notant des grosses scènes et tout. Moi, c'est presque un premier jet, on va dire, mais du coup, c'est que des notes. Après, il faut les retranscrire dans le premier jet, au moment du premier jet. Il faut les réécrire parce qu'évidemment, des fois, c'est des choses que j'ai écrites des mois et des mois plus tôt. Il faut le retravailler, ça marche plus. Mais ouais, des fois, il y a des choses qui sont préécrites comme ça sur des périodes longues avant.
Ok, je trouve ça vraiment fascinant parce que mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est rare que des scènes me viennent. Puis sur mon plan de LTR qui fait 15 000 mots, j'ai aucune scène. Je pense que j'ai deux lignes de dialogue. C'est fou.
En fait, t'as les éléments.
J'ai les idées, comme, ouais, puis là, c'est sous forme de bullet points, donc telle chose se passe, mais j'écris pas de narration, comme.
Ouais, tu composes avec les idées, moi je compose avec les scènes, du coup.
Ouais, c'est trop spécial, c'est cool. Puis comme ça, en plus, quand t'arrives sur ton premier jet, t'as comme déjà de la matière, comme tu disais.
Ouais, pour le coup, bah ça dépend des projets. Ça dépend si j'ai laissé le temps de préparer en amont aussi. Bah là, typiquement, en ce moment, je suis en train d'écrire un premier jet où j'ai rien préparé en amont. Donc là, des scènes de pré-écrit, je devais en avoir 3 ou 4.
Ok, donc à ce moment-là, pour ton projet actuel, t'as juste commencé à écrire en ayant comme une idée hyper générale de ton projet?
En fait, donc j'avais déjà voilà, 3-4 scènes décrites, pas énormément. Et je savais le début et quelques éléments des scènes disséminées dans l'intrigue. Donc en fait, ça allait pour commencer. En ce moment, je suis un peu en mode piétinage parce que j'ai pas la fin. Et là, c'est plus flou. Et j'arrive sur la fin, donc c'est vraiment plus flou. Mais j'avais quand même une idée globale de où l'histoire se dirigeait. Et tant que j'ai vraiment ce fil conducteur, j'arrive quand même à construire. Après, là où il va y avoir des problèmes avec ce jet-là, c'est que les éléments de worldbuilding n'étaient pas préparés, les noms des personnages n'étaient pas préparés. J'écris avec des trous dans ma narration. Je mets des slashes au lieu de mettre des prénoms, parce que je connais pas les prénoms de personnages. C'est très problématique. Mais parce que j'ai pas fait ce travail de préparation en amont que je fais d'habitude, et du coup, bah voilà, je le ferai après, quand j'aurai fini le premier jet. Je pense que, enfin, je me dirai pas qu'il sera terminé, du coup, je pense que je dirai, faut juste que je repasse dessus avant de me dire qu'il sera vraiment fini. Et après, de travail de réécriture, évidemment, bien sûr, mais en tant que juste que premier jet, pour moi, il sera pas terminé tant que j'aurai pas apporté ces éléments-là. Mais je les ai pas préparés encore, donc c'est un peu le même travail que ce que je fais d'habitude, mais il sera à l'enfer.
Ça serait vraiment dommage que tu arrives sur ton premier jet puis que tu saches pas qui et quel slash.
C'est exactement le problème, c'est le dilemme, c'est la grosse question du moment. Est-ce que j'arriverai à retrouver qui est slash 1, qui est slash 2, qui est slash 3?
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'aurais dû mettre des symboles ou des lettres ou des machins, même des petits mots nuls qui, tu sais, n'auraient rien voulu dire, mais au moins ils auraient tous eu la même chose. Enfin, pas tous eu la même chose. Là, ils ont tous un slash, des textes à trous, et je sais pas comment je vais faire.
Mais je peux comprendre en même temps parce que c'est rapide à mettre. Donc
Bah, c'est ça en fait. Là, je me pose pas la question. Voilà.
Ouais. Bon. Puis, tu t'es lancé dans ce projet-là rapidement parce que tu avais vraiment comme un besoin de l'écrire maintenant?
En fait, c'est pas un besoin de l'écrire lui en particulier, c'était un besoin d'écrire tout court. Okay. En fait, je suis en dernière année de master et du coup, j'ai des mémoires à écrire pour la fin de mon année, pour valider mon diplôme. Et c'est un mémoire assez conséquent, enfin, je veux dire, comme tout mémoire de fin d'études. Et j'avais plein de petits rendus aussi qui s'accumulaient. En parallèle, je suis aussi en alternance, donc voilà, j'avais Instagram aussi que je développais et que je développe toujours. Et puis je voulais me mettre au dessin, et puis je voulais lire. Et puis en fait, il y a un moment où, en fait, quand moi je me lance dans un premier jet, j'ai tendance à y aller tellement à fond que tout mon temps y passe, en fait. Et en vrai, c'est génial d'avoir du flux d'écriture comme ça, j'aime trop. Mais c'est pas raisonnable, c'est pas raisonné, et j'arrive pas à me calmer. Et donc en janvier, je me suis un peu dit, en décembre plutôt, quand j'ai fini le premier jet d'avant, je me suis dit, bon, là, maintenant, pause, en fait. On va pas se lancer dans un nouveau premier jet, parce que sinon, on va y aller trop à fond, comme d'habitude, et en fait, on va juste... pas gâcher du temps, parce que je veux pas dire qu'écrire est gâcher du temps, mais je vais pas réussir à être sérieuse sur le reste, en fait. J'arriverai pas à me canaliser, donc pause. Et du coup, j'ai fait un arrêt d'écriture. Alors, il y avait des réécritures, quand même. J'ai fait de la réécriture en parallèle, mais un arrêt d'écrit de premier jet pendant 6 mois. Et en... 6 mois 5 mois oh, un truc comme ça. En mai, fin mai, je me suis relancée. Mais du coup, le fait de ne pas l'avoir préparé en amont fait que je ne me lance pas aussi, aussi rapidement que ce que je faisais avant, en fait. Parce que je suis tellement dans un espèce de flou qu'il faut que je prenne le temps d'y réfléchir, que j'y vais plus posément. Je connais pas les personnages, donc j'ai besoin de les appréhender un peu plus lentement. Je connais pas l'univers non plus. Bon, maintenant, oui, parce que ça fait un moment que je l'écris, mais au début, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup ce tâtonnage. Et donc, finalement, j'ai réussi à ne pas tomber dans mon travers d'aller trop vite ou de me lancer un peu à corps perdu dedans. Et donc, ça allait. Donc, c'est allé et voilà. Mais c'était vraiment un besoin d'écrire, en fait. J'ai besoin d'écrire. C'est un... Et je me sens même mieux d'ailleurs. Alors, il y a une passe où ça allait très bien, mais je sais que j'ai eu plus de hauts et de bas pendant ces 6 mois. Et le fait de m'être remis à l'écriture me structure, en fait.
Ok.
Ça me fait du bien, en fait.
Il faudrait peut-être que j'utilise ta méthode de pas trop planifier, parce que je suis comme toi. Puis quand j'écris, mais là, c'est pire avec ma réécriture. C'est vraiment comme je fonce et c'est tout ce que j'ai envie de faire et rien d'autre. Mais c'est pas raisonnable, comme tu dis.
On est à fond dans nos projets, en fait. Ils nous font vibrer. Donc,
c'est
forcément,
ça.
On y retourne. On aime nos personnages, on aime nos univers. Enfin, moi, c'est un plaisir de me replonger dedans à chaque fois. Après, des fois, oui, on bute sur des mots et des fois, les phrases, elles ne veulent pas sortir et des fois, c'est relou, mais c'est tellement. Enfin, en plus, là, c'est de la réécriture, donc t'as déjà les grosses bases et tout. Donc, c'est un plaisir de retourner avec ces personnages.
Ouais, ça a du bon comme du négatif, on pourrait dire ça.
Ah bah après, oui, c'est sûr que bah, quand tu délaisses les choses à côté ou quand tu te mets la pression sur d'autres choses aussi, ça fait pas que du bien absolument, mais voilà, revenir à son projet. En tout cas, moi, quand je reviens à mes projets, c'est un plaisir.
Est-ce que tu penses que ta méthode pourrait être appelée à évoluer, à changer tout le temps en fonction des projets? Comment tu vois ça?
Moi, je suis pas fermée du tout à différencier ma méthode en fonction des projets et je suis même assez convaincue, mais alors après, chacun son opinion bien sûr, mais je suis assez convaincue que c'est une bonne façon de voir, de pas s'enfermer. Alors, à moins que la méthode soit vraiment hyper safe pour soi et qu'on se dise celle-là, c'est la mienne, c'est sûr, voilà, qu'on est vraiment sûr, dur de soi, je suis assez convaincue du fait qu'il faut quand même se laisser assez de liberté en écriture et si un jour un projet doit être juste écrit comme ça, sans y réfléchir, au feeling en fait, bah let's go, why not? Pourquoi s'empêcher, pourquoi essayer de structurer quand on n'a pas envie, pas besoin à ce moment-là? Et au contraire, si on a un projet hyper ambitieux, moi je sais que j'ai un projet de saga, mais j'ai une saga énorme de science-fiction, un peu dystopique et tout, que j'ai commencé à écrire, mais que j'ai arrêté parce que je sais que j'ai pas les épaules pour la porter aujourd'hui et je veux pouvoir prendre le temps de bien la travailler, bien la réfléchir. Et là, je sais que je vais devoir faire un travail, pour le coup, très architecte pour la structurer, pour être sûre, parce qu'il y a plusieurs tomes, que c'est très vaste et qu'il y a des éléments de la fin qui doivent être racolés aux éléments du début, donc je pourrais pas faire n'importe quoi. Moi, je suis hyper ouverte à me dire que ma méthode va changer, elle va évoluer. Je ferai peut-être des bêtises, et puis c'est pas grave. Et le projet, chaque projet avancera, aura sa petite vie, sa petite anecdote, sa petite méthode, je sais pas. Sur ma saga, j'ai testé la méthode des post-it, par exemple, que j'avais jamais faite avant. Bon, en fait, j'ai posé plein de post-it sur mon mur en me disant 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. Et après, on les déplace en fonction de s'il y a des problèmes. Au final, bon, ce post-it, il a servi à rien, finalement, on le retire. Bon, voilà. Et non, franchement, je suis hyper détachée, j'ai envie de dire, de l'idée de mettre un cadre ou un moule. Pour le coup, je suis très spontanée là-dessus.
Ben, je trouve ça super comme vision aussi, parce que comme tu dis, ça dépend de, premièrement, ce qu'on veut faire avec le projet, notre feeling du moment, c'est quoi le projet et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment cool. Maintenant qu'on a parlé un peu de planification, on peut passer au premier jet. Je voulais savoir comment ça se passe pour toi. Est-ce que t'aimes cette étape? Ben, j'imagine que oui.
Ouais. Ouais, le premier jet, c'est un peu mon étape favorite. Avec l'étape d'idéation que j'aime beaucoup aussi. Ce moment où t'as toutes les idées qui arrivent en masse. Bon, moi, ça monopolise beaucoup mon esprit, du coup. Donc, c'est mieux si c'est un moment où je peux me le permettre. Si je suis en vacances, par exemple, c'est cool. Si je suis en plein rush d'un travail de fin d'école, c'est moins cool. Mais ouais, voilà, la phase d'idéation, j'aime beaucoup. Mais le premier jet, pour le coup, c'est un peu mon étape favorite. J'ai l'impression que c'est le moment où je suis hyper libre, en fait. Et c'est le moment où tu construis vraiment avec tes personnages, le moment où tu découvres vraiment ton univers. Même si tu l'as travaillé en amont, parce que j'aime bien quand même avoir un travail en amont. Là, je ne l'ai pas fait pour le dernier projet, mais c'est quand même quelque chose que je me suis habituée à faire et que j'aime bien. C'est vraiment ce moment où tu peux jouer avec les mots, jouer avec les idées, et puis tu te fais surprendre par des nouvelles idées que tu n'avais pas vu venir. Tu dois trouver des petites situations pour racoler les bouts que tu connais et les bouts que tu connais pas. les personnages te surprennent parce que tu penses les connaître, et puis finalement, au moment où, dans une situation difficile ou différente de ce que tu avais prévu, et ben en fait, ils se révèlent être aussi différents de ce que tu pensais. Moi, c'est vraiment le moment, c'est un peu le terrain de jeu, quoi. Et j'aime trop ça. Donc, ouais, le premier jet, pour moi, c'est le meilleur moment. Je boude un peu plus la réécriture.
Je comprends. Parce que j'ai un peu cette sensation-là aussi. Sinon, aussi, je voulais te demander, est-ce que tu es plus team fonceuse ou est-ce que ça t'arrive de revenir en arrière pendant ton premier jet? Est-ce que tu évites ça?
Moi, je suis plus fonceuse, je dirais, mais en fait, je suis pareil que pour la méthode. Je suis hyper ouverte à faire les deux. C'est-à-dire que si, à un moment, j'ai avancé dans mon premier jet et je me rends compte que « Ah, mince, j'ai pas précisé ça à tel moment » ou « Ah, j'aurais dû mettre ça à ce moment-là parce que du coup, ça m'aurait aidé sur cette scène-là », j'ai aucun problème à ouvrir mon fichier d'avant et d'aller rajouter la scène. De trouver un moyen de le changer. Et de l'améliorer. En fait, je suis une fonceuse au niveau du rythme, je pense que c'est plus ça que je vais dire. Et je vais droit. L'idée est d'aller à la fin presque le plus vite possible. Ne profite pas du moment alors qu'elle aime le moment, c'est génial. Mais ouais, non, j'ai vraiment ce... En fait, j'ai besoin de savoir la suite. J'ai besoin de savoir où... Enfin, alors, il y a des moments où je sais où on va, parce que en général, je connais ma fin et je connais plein de petites scènes, donc je sais où on va. Donc, j'ai envie d'aller à ces scènes, donc j'ai envie d'y aller. Puis j'ai envie de me faire surprendre aussi parce que je connais pas encore, de savoir comment on va y aller. Du coup, j'ai envie d'y aller aussi. Mais voilà, par contre, je suis pas du tout fermée à l'idée de, des fois, à remonter dans mes dialogues et me dire « Bon, mince, ça, je l'ai peut-être bien fait, alors juste que je le change. » Ou alors, je me rends compte que j'ai dit une bêtise où j'ai dit un truc trop tôt et je me dis « Ah mince, c'est vrai que là, ça marche plus. » Du coup, je vais le retirer ou le déplacer ou juste le modifier de quelques mots. Ou voilà. Parce qu'en fait, de toute façon, je sais que si je vais pas le modifier, ça va me rester dans la tête. Et tant que j'aurai pas fait le changement, bah, j'aurai une petite alerte dans ma tête qui me dit « Oublie pas le changement, oublie pas le changement, oublie pas le changement. » Donc, je suis okay. Obligée de revenir dessus un moment.
Ok, tu fais ça donc plutôt que juste d'écrire le changement que tu as à faire, mettons, dans tes notes. Tu vas vraiment le changer tout de suite. Même si ouais, t'es vraiment changer. Prise dans ta séance.
Alors, pas forcément au moment de ma séance.
Ok.
Mais tu vois, y revenir 2 jours après ou un moment où je suis plus en train d'écrire. Ou voilà. Oui, non, pas forcément au moment T. Là, parce que si je suis dans ma scène, je suis dans ma scène. Il n'y a pas moyen de m'arrêter. Mais oui, je peux peut-être le noter un peu un moment. Mais disons que je vais y revenir vite. Ça ne va pas rester en stand-by. Et je dirais, d'ailleurs, mon premier jet, je ne considérerais pas mon premier jet terminé si cette modification-là n'est pas faite.
Ok, je comprends. Parfait. Intéressant. À part ça, est-ce que tu as l'habitude vraiment de relire tes romans au complet avant ta réécriture? Et est-ce que tu prends une pause après tes premiers jets?
Ouais, en général, je prends une pause. Je reviens après sur le début de la question, mais ouais, en général je prends une pause. Soit je vais enchaîner 2 premiers jets très différents, ça peut m'arriver, ou même d'ailleurs j'ai enchaîné une fois le tome 1 de ma saga, je l'ai enchaîné avec le tome 2. Mais revenir sur le projet d'avant, par contre, je laisse une pause, parce que, et en vrai même, j'ai appris de mes erreurs justement, et je pense que c'est mieux que je me laisse une pause entre même des premiers jets, parce que bah, moi, j'écris des gros projets en plus aussi. Donc, quand tu as passé 2 mois... j'écris très vite mes premiers jets. Donc, je dis 2 mois, mais ça se trouve, ça peut être plus long pour d'autres personnes. Hein. Mais quand tu as passé 2 mois à fond sur un texte et que tu as fait que d'écrire et que tu as écrit 150 000 mots, en fait, il y a des mots, tu peux plus les voir en peinture. Il y a des mots, ils te sortent par les yeux, tu ne peux plus, tu les supportes plus. Et en fait, même pour ton esprit, il faut un moment... Moi, je dis il faut pas, c'est-à-dire que chacun fait comme il peut et comme il veut, mais moi je sais que j'ai besoin, je pense, d'un moment de juste temps mort, on calme la machine, on laisse le moteur refroidir, et après on y revient. Et en tout cas, pour un travail de réécriture, c'est sûr que je laisse une pause. Je suis pas, enfin, il faut, moi j'ai besoin d'un recul. Si j'ai pas un recul, de toute façon, je vais pas voir. Par contre, du coup, pour revenir sur la relecture, j'aime bien relire mes bouquins. Alors, pas tous, évidemment, mais les plus récents assez régulièrement. J'aime bien aller relire des petites scènes que j'aime en fait. Juste pour des fois le kiff d'être avec les personnages et de les retrouver. Et ouais, j'aime bien les relectures aussi parce que ça me permet de voir des moments où mon texte a été plus faible que d'autres. Des moments où je me dis, ah là, bon, la tournure n'était pas très très bonne. Là, ça va pas. Je vais revenir dessus. En fait, ça me prépare aussi à un travail de réécriture qui viendra après et que j'ai du mal à vouloir engager. Je boude la réécriture, comme j'ai dit, et du coup, je traîne généralement m'y mettre. Et le fait d'avoir fait un premier travail de relecture, éventuellement, me permet de savoir où je vais avoir à me fixer. Et du coup, c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide.
Ouais, ça te fait moins peur après avoir vu comme ce que tu devais faire, j'imagine.
Ouais. Alors déjà, du coup, quand j'écris un premier jet, j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus clean possible dès le premier coup. Donc, je laisse pas de... Bon, là, du coup, en ce moment, elle était une exception à la règle. Je ne démontre pas ce que je suis en train de raconter. En ce moment, elle est une exception à la règle. Mais, normalement, mon premier jet, quand il est fini, alors, il y a des erreurs, évidemment, il y a des fautes d'orthographe, évidemment, il y a des choses qui vont pas aller et il faudra retravailler. Mais disons qu'il est lisible. C'est hyper important pour moi que le premier jet soit clean parce que justement, le travail de réécriture est un travail que j'aime pas trop. En tout cas, que j'ai appris à mieux aimer récemment grâce à la bêta lecture, mais qui à la base, je le kiffais pas du tout. Et du coup, j'ai pris l'habitude de vraiment essayer d'avoir un texte le plus clean possible. Donc, dès le premier coup, je pense déjà aux répétitions, je pense déjà aux structures des paragraphes. Je pense déjà aux structures des phrases. Voilà, il y a déjà un travail au niveau du premier jet que je fais pour, comment dire, amoindrir le travail de réécriture par la suite. Et donc, oui, le travail de relecture, du coup, me permet de mieux appréhender ce que j'aurai à travailler ensuite. Et je pense que même après, encore après ça, le travail de bêta lecture, et encore plus une aide pour ça au niveau des idées et des points d'attention à la réécriture.
Ouais, ok. Ben, je comprends totalement pour la réécriture. Ça fait peur.
Ouais, c'est clair, surtout quand t'as des gros pavés.
Oui. Est-ce que, ben, ça veut dire en fait que ton premier jet est vraiment pas un brouillon. Surtout que tu reviens en arrière pour changer des trucs, ça doit vraiment aider aussi à avoir un résultat plus abouti. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Là, tu parlais de bêta lecture. Est-ce que tu as fait appel à des bêta lectrices, bêta lecteurs très souvent ou c'est récent? Et c'est dans quel moment de tes projets que tu fais appel à eux?
Du coup, c'est assez récent pour moi. J'ai fait une toute première fois, j'ai fait appel à des bêta lectrices. Je pense que c'était la première fois. Enfin, il y a eu une seule fois où j'ai demandé à une seule fille qui proposait, mais du coup, c'était pas très officiel, on va dire. C'était vraiment pour tester, j'ai envie de dire. Plus récemment, il y a eu un projet où j'ai demandé parce que j'envisageais de l'envoyer dans un concours. Donc c'était les murmures littéraires, les concours, et du coup j'avais besoin, pour le coup j'avais besoin de retour parce que bah je l'avais corrigé, je l'avais retravaillé et tout ça, mais bah quand tu vas le confronter à un jury, c'est mieux d'avoir d'abord confronté à quelques lecteurs, enfin c'est mieux, je dis que c'est mieux, il y a plein de gens qui ne le font pas et ça se passe très bien, mais en tout cas moi je pensais à ce moment-là que ça serait mieux de le faire. Du coup il y a eu une première fois de bêta lecture, donc c'était dans le cadre de soumettre à un concours après. Et plus récemment, j'ai fait appel à des bêta lectoristes pour mon premier tome de ma saga. Et j'ai fait appel à ces bêta lectoristes après avoir tout écrit. Pour moi, c'était important. Je saurais pas tellement dire pourquoi, parce que par la suite, je l'ai pas refait. Mais c'était important pour moi que tout soit écrit, en fait, avant de pouvoir donner le projet. Enfin, donner, j'exagère, mais proposer le projet et le faire découvrir. Parce que, pareil, je pense que j'avais ce truc où je me disais, si j'ai besoin de modifier un truc du tome 1, parce que dans mon tome 3 ou dans mon tome 4, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à modifier, bah du coup j'avais le côté safe de je peux le faire, personne n'a vu, personne n'a rien, personne pourra rien me dire, personne saura parce que du coup je suis complètement libre. Du coup je l'ai fait, voilà, après écriture de la saga en entier. Et la troisième fois où j'ai pas fait vraiment d'appel encore, mais deux, trois personnes ont lu mon dernier premier G, qui est un premier tome de saga, et là, pour le coup, j'ai pas attendu. Donc, voilà, comme je te dis, c'est assez dans la spontanéité pour moi. Le fait de l'avoir fait lire, là, le dernier à des bêta lectrices, je pense que c'est aussi un moyen pour moi de me challenger. En ce moment, ce projet, il avance pas parce que j'ai pas le temps de le faire progresser. Et de manière générale, je stagne beaucoup en ce moment sur mes projets parce que bah, y a pas les opportunités que j'attends, j'ai pas forcément toujours le temps de m'y consacrer, voilà. Et du coup, me lancer un peu ce défi d'accepter d'être lu aussi. Et du coup, passer par la bêta lecture pour le faire, ça fait double bénéfice, on va dire. Mais y a peut-être ce côté-là aussi un peu de challenge pour moi, enfin. Montrer mes projets, c'est quelque chose qui a été difficile et qui me demande beaucoup beaucoup de temps de réflexion normalement. Et du coup là, le fait d'avoir dit oui de manière spontanée, je vois ça un peu comme des petites victoires aussi. Du coup,
comment tu l'as vécu?
J'avais très très peur pour le premier que j'ai proposé. C'était un one shot contemporain avec des sujets assez difficiles dedans, donc j'avais très très peur. Et pour le premier tome de ma saga, j'avais très très peur, mais pour d'autres raisons. Alors, pour des sujets difficiles aussi, mais surtout parce qu'en fait, j'avais beaucoup parlé de ma saga sur Instagram. Et du coup, j'avais tellement peur de me dire, j'ai vendu un truc.
Ouais.
Et il va être décevant, ou les gens vont pas l'aimer. Et j'étais, oh là là, oh non, comment ouais. Je peux faire?
On est beaucoup à avoir cette peur-là, je pense.
Ouais, bah on crée un espèce d'engouement autour de nos projets, donc en fait... Ouais. Plus on crée, entre guillemets, des attentes sur nos projets, même si on, à nos petites échelles, hein, bien sûr, bah forcément, on se met plus de pression derrière parce qu'on se dit que ça va potentiellement pas atteindre ce que les gens pensaient voir ou lire, enfin, du coup, plutôt. Donc, ouais, ça m'a fait très très peur à ce niveau-là. Et finalement, c'est très bien passé, donc ça va beaucoup mieux.
Ok, donc ça s'est bien passé, t'as comme bien pris les retours et tout, et t'as pas eu ouais. Trop comme de frustration ou de mauvaises émotions par rapport à ça.
Ouais, franchement, j'avais peur aussi, du coup, de ma propre réaction, parce que n'étant pas habituée à faire lire mes textes, et en plus, me suis tournée vers une écriture plutôt plus adulte, donc c'est quelque chose aussi... Bah, tu traites de sujets des fois plus matures et du coup, il faut les aborder correctement. Puis ça fait une pression supplémentaire du coup. J'avais très peur de savoir comment moi-même j'allais réagir au fait d'avoir des retours. Alors en général, de manière générale dans ma vie, je suis assez bonne patte et je prends assez bien la critique. Donc ça va. Mais c'est vrai que là, ça touchait quelque chose, ça touchait un projet en fait. Donc est-ce que ça allait pas mal y réagir? Est-ce que ça allait pas me blesser? Est-ce que ça allait pas me frustrer comme tu dis ou juste me démoraliser et en fait pas du tout. Alors je pense que ça se joue au fait que déjà j'ai eu une team de bêta lectoristes hyper bienveillants et ça s'est très bien passé, ces personnes étaient incroyables, donc ça c'est sûr que ça joue hein. Sur un bêta lecteur ou enfin, une bêta lectoriste qui est pas bienveillant dans ses retours déjà forcément ça fout un coup. Donc là, voilà, déjà, la team était top. Et en fait, au contraire, et c'est là que ça m'a beaucoup surprise, c'est que ça m'a reboostée. Et c'est là que je dis que je me suis un peu réconciliée avec la réécriture. C'est que le fait d'avoir eu ces retours-là, ça m'a fait recréer une phase d'idéation que j'aime énormément. Ça m'a ramenée au moment où, ok, donc là, j'ai eu tel retour, du coup, il faut que je pense à quelque chose qui va faire en sorte que ça atténue tel sentiment, ou ça améliore telle description, ou qu'on comprenne mieux telle idée. Ça m'a fait repasser dans un process de réflexion qui a été avivé par des retours extérieurs aux miens. C'est un peu le système, tu sais, de la pensée collective, qui fait qu'une idée engendre une autre idée chez quelqu'un, une autre idée chez quelqu'un, une autre idée chez quelqu'un. Ça a fait un peu cet effet-là. Mais du coup, plusieurs personnes proposaient des idées et moi, je recrée à partir de ces potentielles idées, ou pas d'ailleurs, parce qu'on est libre, complètement libre de dire non, moi ça je garde. C'est chacun, enfin, travail de l'auteur, et c'est aussi de pouvoir dire moi je garde mon texte comme ça ou pas. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Et après, j'imagine que si les retours avaient été mauvais, je l'aurais moins bien vécu. Là, il se trouve que les retours ont été bons, donc c'est positif aussi. Et puis les personnes ont été bienveillantes aussi dans mes retours, donc c'est cool.
Ouais, très cool. Et c'est cool que ça t'a comme un peu réconcilié avec la réécriture. Et je l'ai vécu un peu de la même façon. Je trouve que ça a été beaucoup plus facile, ma réécriture 2, après les retours bêta lecture. Donc, je comprends.
Ouais, non mais ouais, il y a ce côté où du coup t'es plus seule face à ton texte aussi.
Exactement.
Donc, ça aide aussi bien pour le recul.
Mm-hmm.
Et puis, ça aide à voir des choses qu'on n'aurait pas nous-mêmes vues par nos propres perceptions. Parce que chacun a... Bah, bon, encore une fois, chacun son vécu et puis chacun ses sensibilités aussi. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait dire au niveau de l'écriture, c'est qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et moi, je sais qu'il y a des fois où je mettais trop de descriptions physiques, par exemple. Mais c'est un truc, en général, me gêne pas, moi, quand je lis. Mais tu vois, il y a d'autres personnes où ça les dérange plus. Et du coup, ils vont te le notifier plus. Pareil dans les transmissions d'émotions. Des fois, j'ai tendance à vraiment en mettre beaucoup trop. Et bah, pareil, ils me disent, bon, bah, là, il y en a peut-être trop. Bon, bah. Et du coup, tu peux prendre du recul parce que toi, tu le vois pas. Donc, ça aide beaucoup.
Ouais, vraiment. Avoir des regards extérieurs, c'est très aidant. Est-ce que tu planifies ta réécriture et comment est-ce que tu procèdes si c'est le cas?
Je planifie pas vraiment. Moi, quand je me lance dans la réécriture, alors, avec des retours de bêta-lectoristes, ça aide. Mais en général, quand je me lance dans la réécriture, j'y vais vraiment... Enfin, je prends mon carnet, je recrée mon tableau de compte de mots et tout. Éventuellement, je prends des notes de ce que j'avais notifié à changer. Et après, je me lance. Et en fait, ouais, pour le coup, il y a vraiment très peu de travail préparatoire.
Ok.
Ouais, non.
Bah, c'est une méthode comme une autre, je comprends. Donc, est-ce que tu as aussi peut-être une routine ou des habitudes qui t'aident à te motiver ou tu n'as pas vraiment besoin de ça?
En général, pour me mettre à écrire, j'ai pas tellement besoin de me pousser. C'est-à-dire que, limite, écrire pour moi, c'est un peu l'option facile. Que si j'ai 5 minutes devant moi, je peux aller écrire deux petites lignes sur mon document et j'aime bien. Ou deux petites lignes de notes dans mes notes, plutôt, des fois, si je préfère. Si c'est plutôt une idée qui me vient ou si c'est directement mon premier jet. Mais... j'ai presque envie de dire que des fois, l'écriture, c'est ma procrastination active. C'est quand j'ai pas envie de mettre au travail, quand le mémoire m'appelle, et ben non, le premier jet, c'est mieux.
Ouais, ben, c'est le fun aussi d'écrire, donc je comprends. Mais ouais. C'est rare que j'entends ça. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir peur de se mettre devant notre document.
Ouais, je le sens aussi. Des fois, je me dis, bon, bah, ok. C'est pas... Moi, non. Mais ouais, non, pour moi, c'est le fichier d'écriture est toujours ouvert. Il est toujours sur mon ordinateur ouvert. Il est toujours accessible sur mon téléphone aussi. Et ça peut être un moment de fulgurance. Je me dis, oh là là, mais cette phrase, il faut que je la note. Et du coup, bah, hop là, je la mets. Ou alors, ça peut être un moment où je suis dans le métro et... je vais passer 30 minutes dans le métro et je vais rien faire. Donc, je vais écrire. Et puis voilà. Après, j'ai quand même un peu mes habitudes. Donc, j'ai le fait que je peux écrire un peu n'importe où, n'importe quand, quand je veux. Mais quand je suis chez moi, j'aime mieux écrire le soir, voire la nuit. En général, je mets vers 22h, de 22h à minuit, j'écris, voire... une heure, parce que j'aime bien tirer sur le temps. Et si on est en week-end et que je peux me lever tard, du coup, le lendemain, ça m'arrive de me remettre à écrire vers 2-3 heures. Et je peux écrire comme ça toute la nuit.
Ouais, ben, je voyais souvent que tu étais active pendant mes soirées qui sont la
Ouais.
nuit en France. Donc, je trouvais, waouh, est-ce que je t'en elle? Mais c'est parce
Non,
que
c'est.
t'écris. Ouais.
J'écris ou bon, des fois je lis, des fois je fais autre chose, mais c'est vrai
Ok.
que j'aime bien la nuit. C'est un peu mon rythme à moi.
Cool. Puis, c'est cool aussi que tu puisses te mettre aussi facilement à l'écriture. C'est vraiment un point positif.
Ouais, ça pour le coup. Enfin, ça, j'ai vraiment pas de difficulté à me remettre dans mon. Mais alors, des fois, j'ai buté sur des phrases. Bon, alors là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement. Mais l'engouement et le besoin d'écrire est toujours là. Et puis, si j'arrive pas à trouver la phrase exacte à ce moment-là, c'est pas grave, je peux écrire la petite scène en dessous. Et puis, à un moment, je reviendrai pour finir le bloc.
Ouais, je comprends. Puis, est-ce que tu penses ou tu dirais que entre le premier jet et la réécriture, tes projets changent beaucoup en général? T'sais, est-ce qu'il y a des gros pans d'histoire qui prennent le bord ou pas trop?
Actuellement, non. Mais parce que aussi, ma façon d'écrire a changé. Je pense que si je reprenais un de mes premiers jets, pratiquement, je reprends le premier que j'ai écrit, oui, je pense qu'il y a énormément de choses à changer, plein de choses qui vont pas, c'est certain. Là, j'ai une idée de. J'ai envie de reprendre un contemporain que j'ai écrit il y a 3 ans, et je sais que je vais en retirer plein de bouts. Mais je peux le dire avec du recul, en fait. Je pense que c'est ça. Là, actuellement, si je prends mes projets récents, et les réécritures que j'ai faites sur ces projets récents, non, il y a très peu de choses qui ont changé. Si je prends l'exemple de mon premier tome de ma saga, il y a un chapitre qui a été réécrit, une scène d'un chapitre qui a été réécrite, parce que ça n'allait pas au niveau d'un personnage, c'était pas très clair. Mais sinon, en termes d'intrigue, il n'y a rien de gros, vraiment rien qui a changé. Non, aujourd'hui, la façon dont j'écris fait que, normalement, pas censé retirer des bouts, pas censé se passer. Mais après, tu vois, je te dis ça actuellement, et ça se trouve, dans 5 ans, si la saga n'est pas publiée entre-temps ou quoi, et que j'ai avancé sur d'autres projets, bah ça se trouve, dans 5 ans, j'aurais envie de changer plein de trucs. Bon après, là c'est une saga, donc il y a 4 tomes, donc changer un élément du tome 1, c'est chiant, parce que ça va devoir me faire changer tout le reste. Je verrais mieux que ça n'arrive pas.
Ouais, je te le souhaite.
Mais sur un contemporain, ou sur un one-shot, ou un truc un peu plus. Je veux dire facile, mais c'est pas vraiment facile le mot. Mais où il y a plus moyen de faire des découpages ou de changer des éléments, bah oui, ça peut arriver. Mais j'essaye de faire en sorte aujourd'hui que ça n'arrive pas, encore une fois, parce que voilà, la réécriture, c'est pas ma meilleure amie. Du coup, si elle peut se passer le plus facilement possible.
Donc, c'est plus du travail de forme à ce moment-là.
Ouais, c'est plus vraiment la forme. Pour le coup, la forme, il y a du travail. Comme tout le monde, mais voilà.
Parfait. J'ai oublié de te demander aussi la bêta lecture. J'étais pas certaine. T'as fait appel à des bêta lecteurs après le premier jet ou après une première réécriture?
J'avais déjà fait une première réécriture. Pour le premier tome de ma saga, j'avais déjà fait une première réécriture.
Ok.
Ouais, j'avais déjà. Ouais, j'avais déjà fait une réécriture et j'avais coupé. J'avais déjà coupé 10 000 mots, tu vois.
Ok, je comprends. Puis, est-ce qu'il y avait une raison que tu as attendu une première réécriture? Une raison spécifique?
Ça, pour le coup, je pense que c'est pas du tout lié. En fait, quand j'ai fait une première réécriture, c'était parce que j'étais entre mon tome 3 et mon tome 4. Il me fallait que je fasse une pause, mais que j'étais incapable de lâcher les personnages et l'univers. Du coup, j'ai dit, bon, bah, réécriture, allez.
Ok.
Et voilà, du coup, même la réécriture était, je pense, même pas assez sérieuse, je pense. Enfin, non pas que je l'ai prise à la rigolade, c'est pas le cas, parce que j'aime bien quand même être sérieuse au niveau de mes projets d'écriture. Mais j'avais rien préparé, j'avais pas de point d'attention très poussé. Et du coup, c'était une réécriture, voilà, une réécriture un peu de ménage, on va dire, où j'ai retiré des bouts qui servaient à rien, des phrases qui ne voulaient plus rien dire, des mots en trop, des fautes d'orthographe. Mais c'était pas très structuré. Ouais, non, c'était voilà.
Ok, parfait. Super. Ben, tu as répondu à toutes mes questions de méthode que je t'avais comme envoyées en avance. Entre-temps, j'ai eu quelques petites idées. Donc, je vais te poser quelques petites questions de plus. Tu me dis si tu n'es pas à l'aise d'y répondre.
Non, vas-y, s'il te
Mais
plaît.
j'ai un petit segment qui es-tu en tant qu'auteur et je voulais savoir si tu avais la confirmation que personne ne lirait jamais ce que tu écris, est-ce que tu penses que tu écrirais différemment?
Les premiers jets, non. Mais
OK.
peut-être à la réécriture, ouais. Enfin, y a des choses que ça m'a un peu énervée d'ailleurs de moi à moi de faire ça, mais des choses où quand je me suis dit quelqu'un va lire, faut que je retire. J'aime pas du tout cette idée parce que c'est un peu une forme d'autocensure en fait quelque part, et du coup j'aime pas du tout avoir eu cette pensée. Et je me suis pas mal du coup remise en question sur ça, et enfin, c'est un moment un peu entre soi-même en fait, où il faut qu'on se mette d'accord quoi. On le fait ou on le fait pas. Mais là, juste moralement, j'étais un peu en mode bah non, parce que tu peux pas te censurer toi-même. Enfin, si ton texte il est tel qu'il est, tu peux pas retirer une scène entière parce que t'as peur qu'elle soit lue en fait, ou t'as peur qu'elle choque. Enfin, c'est. Oui, il faut faire attention aux sensibilités de gens qui pourraient lire son roman. Je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, si tu mets les bons avertissements et tout, et que tu as été respectueux, là je parle vraiment d'ordre, par exemple, sur des minorités, sur la discrimination, tout ça, tu as été respectueux et tu fais attention, tu es censé pouvoir écrire un peu tout ce que tu veux, en fait, normalement. Et t'es pas censé te limiter parce que c'est un texte, en fait, c'est une histoire et elle est telle qu'elle est. Donc, je sais que j'ai eu ces réticences-là à la réécriture, des fois, et à la bêta-lecture aussi, du coup, je me suis dit, oh là là, des gens vont lire ce que j'ai écrit, des gens vont lire ça, mais je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Et du coup, ouais, je pense que ça aurait quand même une incidence. Hein. Sans mentir, je pense que ça aurait une incidence.
Je comprends. Puis quand tu retirais des passages, c'était par gêne ou c'était pour quelle raison ?
La gêne, parce que bah il y a des scènes qui sont plutôt violentes ou des scènes qui sont plus explicites. Et il y a ce truc où tu te dis les gens vont m'associer à ça.
Ouais, c'est surtout tes proches.
En fait, les proches, ouais, aussi, ouais, surtout, okay. Ouais. C'est terrible parce que j'ai pas envie d'être dissociée de mes projets. J'aime mes projets en fait, donc j'ai pas du tout envie de dire non mais en fait ce livre là non mais je m'y associe pas trop en fait. Bah non, c'est mon premier jet, enfin c'est mon projet, donc oui j'y crois, enfin je l'aime, j'y crois, je crois en lui, enfin donc j'ai pas du tout envie que ce soit comme ça. Et en même temps il y a ces petits bouts de scène où tu te dis non mais j'aurais pas tellement envie d'être associée à ce que les personnages font à ce moment là ou au caractère plus explicite ou plus trash de la situation. Après, comment on va me regarder ? Enfin, franchement, c'est une peur du regard des autres. Hein. Très clairement, c'est une peur du regard des autres qui mériterait d'être jetée aux oubliettes. Mais c'est difficile. Ça demande du temps, du travail sur soi-même.
Et on a des fois l'impression que, comme tu dis, nos personnages vont être associés à nous et les gens, par exemple. En tout cas, ça, c'est mon cas, là. Tu me diras si tu as cette peur-là aussi. Mais j'ai peur que les gens qui ne sont pas habitués à lire, à écrire, m'associent vraiment aux personnages en pensant que j'ai mis une partie de moi dans tous les personnages, alors que ce n'est pas forcément le cas.
Ouais, si. Bah, les gens, ils vont aller chercher... Enfin, les gens, pas tous, hein, heureusement. Mais il y a des gens, on se dit, qui vont aller chercher le détail, tout ce qu'elle veut dire là...
Qu'ils vont essayer d'interpréter,
Ouais, c'est ça, de te donner une parole, enfin, je sais pas si c'est une parole, du coup, mais une idée, une idéologie, je sais pas, que potentiellement tu as, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est une histoire, quoi. Enfin, oui, peut-être qu'il y a des messages qu'on veut faire passer, et oui, certainement, il y en a beaucoup, et oui, il y a des associations d'idées qui se font. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a du moi dans certains de mes personnages, c'est inévitable, il y a du moi dans certains de leurs vécus. Mais je ne l'ai même pas réfléchi en amont. Moi, je ne me rends pas compte quand j'écris que je fais des associations. C'est après coup qu'en y réfléchissant, je me dis peut-être qu'effectivement, là, il y a des points communs. Mais du coup, ouais, il y a ce truc où... j'ai pas envie qu'on me donne un... qu'on mette dans mes textes, dans ma bouche, un message que je n'ai pas voulu dire, véhiculer. Non.
Ouais. C'est une grosse préoccupation, je pense. À part ça, est-ce que tu as l'impression, peut-être, que les réseaux sociaux affectent ton écriture?
En vrai, ça n'a pas affecté, encore une fois, l'écriture des premiers jets et le fait que j'écrive. Par contre, ça a eu un affect. Alors déjà, ça a eu un affect positif sur le côté des rencontres. Le fait de ne plus écrire toute seule. Alors oui, j'écris en solitaire, mais le fait de savoir qu'il y a des gens autour de moi qui écrivent aussi. que j'ai une bulle safe écriture de personnes autour qui existent et qui sont là. Ça, c'est génial. Et puis, le côté de pouvoir faire lire des citations à des gens, de pouvoir parler de nos projets, de brainstormer, comme tu disais, un peu ensemble et tout, de se lancer des idées et tout. Ça, c'est génial. Le côté créatif, en fait, que ça apporte, est génial. Le côté instructeur, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris aussi de personnes. Alors, je parle même pas du fait de la méthodologie d'écriture, mais aussi sur les sujets. Il y a des gens qui font ils font des contenus sur intégrer les minorités dans les histoires, parler de plein de sujets, même de culture, tu vois, où en fait, t'apprends des gens, en fait. T'apprends de leurs méthodes, t'apprends de leurs univers, t'apprends de leur parcours. Et ça, c'est génial. Ça a eu vraiment une influence. Après, plutôt en négatif, il y a ce côté pression de qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce que j'ai ma place, est-ce que je suis légitime, est-ce que mon texte vaut vraiment le coup par rapport à celui des autres. C'est toujours ces problèmes de comparaison. Moi, j'ai pas de comparaison du coup sur le process d'écriture, parce que ça se passe bien pour moi, mais par contre, pour ce qui est bon, j'ai pas envie de dire la réussite, parce que c'est un vaste mot et qui veut pas dire grand chose, parce que chacun a une idée de ce que c'est que réussir, mais le côté succès, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, même si on n'écrit pas pour un succès de base. Enfin, moi j'écris pour raconter des histoires, donc j'écris pas dans le but d'avoir un trophée, une médaille ou un graal à la fin, j'en sais rien, mais il y a ce côté, voilà, quand même, de ok, pourquoi tel projet attire plus de gens, pourquoi est-ce que je devrais montrer mon projet comme ça. Est-ce que, puis ça, oui, il y a aussi ce truc-là de s'exposer aussi, qui fait peur, d'exposer son projet, qui fait peur. Je suis un peu une maman poule, déjà je suis une coquille d'huître moi-même, genre on m'approche pas, on me touche pas, mais avec mes projets c'est encore pire, faut les défendre, tu vois, c'est, enfin, je suis un peu en mode non, mes enfants, laissez-les tranquilles, et en même temps t'as envie de les partager parce que... Ça fait, c'est un peu le dilemme, tu sais, des parents avec leurs enfants sur les réseaux sociaux, de est-ce que je le montre ou est-ce que je le montre pas. ouais. C'est vraiment ça, quoi. Donc ouais, ça a affecté en bien pour tout le côté créatif, le côté motivation, le côté on s'entraide et on s'apporte tous une énergie, une bonne énergie, quoi. Mais ça a eu aussi un peu de négatif, mais du coup Pas par la faute des gens, en fait, c'est juste que c'est encore une fois une question de soi, d'avoir une confiance, une estime de soi, et c'est pas toujours évident.
Ouais, comme tu dis, c'est un travail pour soi, puis ça peut être très long. Ça peut, des fois c'est l'histoire d'une vie, là, évidemment.
Ouais.
Mais je trouve ça intéressant de se questionner.
C'est des hauts et des bas. Mm-hmm. Des fois, c'est des hauts et des bas. Des fois, t'as une situation où ça se passe trop bien, t'as des réussites, ou enfin, j'en sais rien, t'as réussi à finir ton premier jet, t'as réussi ta réécriture, ou alors t'as remporté un concours d'écriture, enfin, tu vois. Là, du coup, ça se passe trop bien, et t'as une estime de toi qui est ouf, et du coup, t'es trop bien, t'es trop heureuse.
Ouais.
Et puis, demain, tu galères devant ta page, t'as un trou, tu sais pas où tu vas, t'as une lettre de refus, t'as une audition ou quoi, et là, tout de suite, c'est repli, et ça va moins bien, donc... Ouais, c'est un travail d'une vie, puis des fois, c'est juste les aléas aussi qui font que, voilà, c'est tout, on est obligé de pas être toujours, enfin, moi j'admire, plutôt, je dirais, c'est pas qu'on peut pas, il y en a qui le sont, mais j'admire les personnes qui sont toujours dans le positif, dans l'optimisme et tout. Vraiment, si on pouvait avoir le même optimisme, je serais hyper heureuse.
C'est sûr que des fois, ça a l'air plus facile comme ça.
Ouais, bah après, des fois, il y en a qui, on a l'impression qu'ils sont toujours optimistes, et des fois, ils ne sont pas, en vrai. Enfin, il y a aussi ce truc-là où on montre que ce qu'on veut bien montrer, et on se montre sous notre meilleur jour, parce que c'est ce que tu disais sur un de tes derniers posts, parce qu'on se défend, on se protège, et puis parce qu'on n'a pas envie d'imposer ça aux gens, ou plein de raisons aussi. Donc, on sait pas. Oui, il y a des gens qui ont une tendance à l'optimisme, qui c'est leur naturel, ils sont optimistes, et c'est trop bien. Mais des fois aussi, pas être toujours dans l'optimisme et tout, c'est normal, enfin, c'est ok.
Et surtout, on connaît vraiment une infime partie des gens sur Instagram. Tu sais, dans le fond, on les connaît pas à 100%,
Ben
même loin de là. Donc,
On n'a pas leur quotidien, on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils vivent. Enfin, voilà.
Ouais.
Puis on a tous des mentalités très différentes aussi, donc on ne gère pas tous la pression de la même façon.
Ouais. Oh ben merci beaucoup pour tes réponses. J'ai un dernier petit segment un petit peu spécial qui s'appelle pour l'instant comptoir à potions parce que j'ai pas trouvé mieux. Je t'explique en quoi ça consiste. Donc, on imagine que j'ai des potions magiques qui peuvent t'aider dans ton processus d'écriture et tu me dis lequel tu choisis. OK?
OK, ça serait bien. J'aime trop.
La première, j'ai différentes potions qui permettent de sauter une étape du processus d'écriture. Je pense savoir ta réponse, mais laquelle tu choisirais entre planification, premier jet, relecture, réécriture et synopsis?
Ah ouais, mais attends, t'as mis synopsis à la fin. Je crois que
c'est ouais, ça te fait hésiter.
Réécriture ou synopsis, je pense que je prends le synopsis. C'est horrible.
Ah ouais? Ah ouais, ouais. C'est terrible.
Ah, c'est terrible. Ouais. Comment tu veux résumer 150 000 mots en deux pages, même pas une page? C'est horrible.
Je sais.
Je sais. C'est aussi. Vraiment, je...
Non, je l'ai fait il y a pas longtemps et...
Ouais, moi aussi, du coup, je pense qu'on est un peu aux mêmes étapes aussi où on anticipe nos soumissions.
Oui.
Et ouais, voilà. Et du coup, ouais, le synopsis...
Mais surtout avec des gros romans comme ça.
Ouais, c'est ça.
Comme tu dis, résumer 180 000 mots en deux pages.
Je sais plus, toi, c'est une duologie.
Ouais.
C'est une duologie. Mais voilà, mais tu vois, on a plusieurs projets. Enfin, c'est plus gros que juste le premier tome aussi.
Donc... En plus. Ouais. Ok, donc je suis surprise de ta réponse et en même temps, pas tant que ça.
Ah parce ouais, que mais le synopsis. On n'en avait pas parlé, mais ouais, non, le synopsis.
Je comprends. Maintenant, si je t'offre une potion qui te permettrait de t'améliorer dans quelque chose, est-ce que tu choisirais pour le dialogue, les descriptions, les chapitres 1 ou les fins de roman?
Ah, les chapitres 1, je pense.
Ah ouais, ok.
C'est toujours un peu le dilemme. Toujours entre qu'est-ce que je dois faire en premier, la première phrase. Je me prends tellement la tête sur la première phrase, des fois. Ouais, je pense que c'est le chapitre 1. Et en vrai, tu vois, anecdote comme ça, les chapitres 1, c'est en général ce que je retravaille le plus à la réécriture. S'il y a un chapitre qui doit changer, alors à moins d'une scène vraiment qui a besoin d'un changement particulier plus tard, mais s'il y a un moment où vraiment je suis ouverte à retravailler mon texte et à le changer du tout au tout, c'est chapitre 1. J'ai des projets où le chapitre 1 a changé... virage 180 degrés, tu vois, vraiment, parce que vraiment, des fois, c'est une galère.
Ah ben, tu mets un peu le paquet, vu que c'est le premier truc qu'on lit aussi.
Ouais, c'est ça, puis...
C'est logique.
Pourtant, des fois, il y a des chapitres 1 qui sont pas formidables, mais l'histoire sont incroyables derrière, et c'est ok aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc où on se met beaucoup la pression sur cette idée de première impression qu'on doit faire, justement, notamment si on veut soumettre en maison d'édition. Parce qu'en général, ils s'arrêtent sur les premières pages. Donc, ils ne vont pas aller au-delà de 2-3 chapitres. Et c'est là qu'il faut mettre un peu le taquet. Et en même temps, des fois, tu te dis c'est frustrant parce que tu as tellement plus à offrir sur la suite. Limite, lisez pas le début, lisez la fin. C'est mieux.
C'est un peu la sensation qu'il faut vraiment comme convaincre très rapidement. Donc, qu'il faut mettre... le plus de trucs cool entre guillemets possible dès le début.
Ouais, mais c'est ça. Et j'aime, enfin, je suis d'accord parce que c'est vrai, il faut happer tout de suite. D'un côté, je suis pas d'accord en mode je vais pas dénaturer mon histoire parce que il faudrait que tout de suite elle flash. Ça se trouve l'histoire elle a beaucoup à apporter sur la durée ou dans ces 3-4 chapitres d'après, tu vois. Mais du coup, est-ce que je dois dénaturer mon truc pour en faire en sorte qu'il tape dans l'œil dès le début? Ou est-ce que je mise plutôt sur ma plume, ou est-ce que je mise sur une description particulière, enfin, voilà, du coup, ouais, en vrai, chapitre 1, ça peut être pas mal, du coup, pour résoudre ces questions.
Je comprends ton choix. Et la dernière question, si je pouvais t'offrir une potion qui rendrait toutes tes scènes d'un type quelconque presque parfait, qu'est-ce que tu choisirais entre scène d'amour, scène de combat et d'action, ou scène plus profonde?
Les scènes d'amour. parce que je suis vraiment très très naze.
C'est tellement dur. C'est dur à écrire.
Terrible parce que je suis pas, en plus je suis pas du tout une personne romantique et romance dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment vraiment pas du tout mon sujet. Et à écrire, je suis toujours en train de tâtonner, en train de est-ce que c'est trop gnangnan, est-ce que ça passe, est-ce que c'est pas gênant, parce que même moi je suis gênée en écrivant, du coup c'est pas comment ça va rendre. Alors par contre les scènes d'action, je surkiffe.
Donc ça, ah c'est... ouais.
Ah ouais, ah j'adore
écrire les scènes d'action. Moi ça c'est ce que je trouve le plus difficile.
Ah ouais, voilà.
Ouais.
Tellement ça. Je pourrais faire mieux que ça. Vraiment, un jour, j'écrirai un livre avec que des batailles médiévales. J'aime trop ça. Et après, les scènes profondes, ouais, en fait, ça dépend. Il y a des fois où c'est difficile, il y a des fois où ça va. Mais je pense que ça va. Franchement, les scènes d'amour, là, j'en avais une il n'y a pas très longtemps à écrire. J'étais contente quand je l'ai terminée et que je passais à une scène d'action, justement, parce que j'ai fait tellement de temps dessus.
Et est-ce que tu as beaucoup de romances dans tes romans que tu écris ou c'est juste comme un petit fond?
Et bah, en fait, avant, j'en avais très peu. Et là, sur ma saga, il y en a une qui prend beaucoup de place.
Okay.
J'ai envie de dire qu'elle est un peu kiff-kiff au niveau de l'intrigue. Du coup, on est un peu sur de la romantétie. Au final, je me rends compte que le genre se dirige de plus en plus vers ça. Mais du coup, c'était un peu surprenant et nouveau pour moi parce que c'était pas trop comme ça que ça se passait avant. Et là sur les derniers, il y a une romance, mais elle est, enfin il y a de la romance, mais c'est pas le cœur. C'est là et c'est cool que ce soit là, ça apporte son truc, mais c'est pas le cœur du sujet. Et ça me va mieux, je pense, quelque part. Quoique j'ai adoré écrire ma saga, donc en vrai je dis ça, mais j'ai trop aimé, donc c'est cool aussi. Mais des fois il y a des moments où c'était un peu maîtrise pas le sujet là. Il va falloir travailler ça.
Ouais, ben mon premier bisou, on va dire, dans LTR, j'ai trouvé ça hyper dur à écrire.
Oh, non, mais pourquoi? Parce que.
C'est difficile.
C'est horrible. C'est terrible.
Surtout quand c'est le premier vrai contact entre deux personnages, tu veux pas le gâcher parce que souvent il y a comme vraiment une attente de la part des lecteurs.
Ouais. En plus, si t'as fait un truc un peu, du coup, slow burn, j'imagine, où en fait ça prend son temps. Les touristes, ils vont vouloir
c'est ça.
Qu'ils attendent, c'est un peu en mode
ouais. Bon,
pas tous, il y en a qui sont pas là pour ça, mais il y en a où ça va vraiment être leur attente, ils sont attendus.
Faut pas les décevoir parce que
sinon ça craint.
Exactement.
Non mais je le comprends très très bien.
Bon ben c'était tout pour mes questions. Je suis vraiment contente de t'avoir reçue sur le podcast. J'ai trouvé tes réponses super intéressantes, surtout qu'on se ressemble pas tant que ça sur la méthode. Donc moi ça me fascine de entendre d'autres méthodes des auteurs qui m'entourent. Donc
ouais, très c'est très super cool. Intéressant. Ouais. Super intéressant, super enrichissant de voir comment ça se passe dans la tête d'autres personnes et tout. C'est...
Ouais, on a vraiment tout un fonctionnement différent dans notre cerveau. Donc, je trouve ça vraiment cool.
Puis des fois, on se rejoint sur des trucs et des fois, pas du tout. Et...
Ouais.
C'est super intéressant aussi de voir ça, les éléments qui se
croisent
alors que d'autres, pas du tout.
Donc, merci d'être venu. J'aurais pas pu rêver mieux pour un premier épisode.
Ah, merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait trop plaisir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.